Chers auditeurs et auditrices, nous continuons cette série qui concerne d'avoir confiance dans le Seigneur, de placer toute sa confiance dans le Seigneur. Notre troisième étude sera le complexe d'infériorité, premièrement, et deuxièmement, faites de votre vie un havre de paix. Chers amis, il est fort possible que vous vous sentiez souvent vaincu. Le découragement, la dépression s'installe en vous, vous donnant le sentiment que tout va mal, qu'il ne vaut pas vraiment la peine de lutter. Tout le monde est probablement tenté de s'enfoncer, comme on dit, dans cette attitude ennuyeuse et triste occasionnellement. Heureusement que ce n'est pas toujours, parce que nous luttons, mais tout le monde ne cède pas nécessairement à toutes ces attaques, heureusement. Donc, ceux qui acceptent l'idée qu'ils sont vaincus sont en général vaincus car, ainsi qu'un psychologue de renom l'a dit, il y a une forte tendance dans la nature humaine à devenir ce que vous imaginez être. Croyez que vous êtes vaincu, croyez-le assez longtemps, et il y a de très fortes chances que cela devienne un fait, même s'il y a assez d'énergie atomique dans le corps d'un être que vous êtes, pour détruire la ville de Paris, eh bien ça ne suffira pas pour vaincre toutes les attaques si vous restez les bras ballants et que vous ne vous remuez pas les fesses, que vous ne vous mobilisez pas pour contre-attaquer. Mais remarquez, les gens qui atteignent le bonheur et le succès, ce sont ceux qui, lorsqu'ils se sentent sombrés dans un état de dépression, se secouent en refusant, voilà donc le mot, en refusant d'accepter l'idée de la défaite. Ils refusent d'entretenir l'idée que les situations et les circonstances où leur ennemi les démoralise. Ils savent que c'est la pensée de la défaite qui cause la défaite. C'est logique. Alors, ils s'exercent à penser de façon positive. Des pensées indomptables, des pensées de foi surgissent dans leur esprit et ils entraînent leur esprit à enfin, non pas penser à la défaite, les bras ballants, mais en se ramassant sur eux-mêmes pour la victoire. Et comme résultat, ils obtiennent la victoire. Fondamentalement, le complexe d'infériorité, c'est se sentir habituellement inférieur aux autres, et cela provient d'une mauvaise façon de penser qui est acquise soit durant l'enfance déjà, soit comme résultat d'expériences subséquentes. Un complexe d'infériorité peut être défini comme un système d'idées émotives disposées autour d'une idée centrale, par exemple, le manque de confiance en soi. Les symptômes d'un complexe d'infériorité peuvent se reconnaître par la façon dont vous compensez, c'est-à-dire par la méthode que votre subconscient utilise pour compenser pour les sentiments d'infériorité. Donc, si nous jetons un bref coup d'œil sur certains types de compensation, nous comprendrons mieux de quelle façon le manque de confiance en soi influence le comportement humain. Il y a le genre de personnalité qui se surestime. La victime se pavane plutôt que de marcher normalement. Vous voyez cela en observant des gens comme des descas qui passent par de forts problèmes, mais très orgueilleux. Cette démarche est pompeuse, crâneuse, imbue de soi. Si cette personne parle, ce sera vraisemblablement à voix très haute. Lorsqu'elle discute d'un quelconque sujet, elle donne l'impression de tout savoir ce qu'il y a à savoir. Vous dites comme elle est prétentieuse. Eh bien, pas nécessairement, pas forcément. Il serait plus précis de dire comme elle est malade, en quelque sorte. Sous ses dehors pompeux, elle a peut-être un profond sentiment d'insuffisance. Son attitude arrogante, c'est la manière dont son esprit cherche inconsciemment à compenser pour le sentiment d'infériorité qu'elle a ou qu'elle croit avoir. Elle ne fait pas cela délibérément ou consciemment. C'est l'effort inconscient de son esprit pour en quelque sorte sauver la face. C'est son subconscient qui se surestime. Dans une situation difficile, exercez-vous, chers amis, à vous répéter sans cesse. En faisant une affirmation personnelle, et dites « Si Dieu est avec moi, mais voyons, qui peut être contre moi ?» Cette pratique résultera éventuellement en l'acceptation par votre esprit de la puissante pensée, car c'est une puissante pensée, que votre insuffisance est rehaussée, et cela par une force plus grande, celle qui est divine. Exercez-vous donc à réciter cette formule et persistez à la réciter, car la persévérance donnera toujours des résultats. La foi est un moyen vital pour recréer la force, pour recréer l'espoir et l'efficacité. Elle possède un étrange effet thérapeutique et recréateur. Je pourrais citer de nombreux cas pour appuyer l'affirmation précédente, mais l'incident suivant est typique de tous ces cas. Écoutez bien ce témoignage. Un soldat qui, revient d'outre-mer avec une jambe en moins. L'amputation qui avait suivi la bataille avait causé un choc profond dans l'esprit du jeune homme, et on le comprend. Il gisait sur son lit sans sourire et sans parler, en fixant simplement le plafond. Certains d'entre nous connaissent cela. Il ne voulait pas coopérer pour apprendre à porter une jambe artificielle, même si les autres autour de lui le faisaient pourtant. Visiblement, son problème n'était pas physique, mais se situait dans son esprit. Son infériorité était si profonde qu'il s'était complètement abandonné à la défaite. On crut qu'un certain temps passé dans son foyer pourrait peut-être l'aider à s'en sortir et se débarrasser de sa dépression. Il était tout de même, et c'était quand même quelque chose qui aurait dû l'aider, il était issu d'une famille aisée, et à la maison, on lui prodiguait toutes les attentions, ce qui n'est pas le cas pour certains. En effet, sa famille, on peut dire exagérée même, on le portait tendrement jusqu'à son bain. On lui tournait autour et on le dorlotait de toutes les façons concevables. Ceci est compréhensible car chacun tend à montrer son amour et son appréciation à un jeune homme qui s'est tout de même sacrifié pour son pays. Toutefois, le médecin réalisa qu'on était en train de faire du jeune homme un invalide pour le restant de sa vie. Alors, il le plaça dans un hôpital pour convalescents. Un effort fut fait pour l'aider à pouvoir enfin apprendre à s'aider lui-même et pour lui donner une attitude normale concernant son propre problème, mais absolument, hélas, sans aucun succès. Car il continua à rester au lit, indifférent et nullement coopératif. Or un jour, le médecin, plutôt déconcerté et exaspéré, lui dit « Je dois être dur avec le jeune homme. Oui, je dois le faire vraiment. Mais je dois trouver un moyen d'abattre ce mur autour de lui. Il doit mettre fin à cette psychose d'infériorité s'il veut reprendre une vie normale. » Alors il dit « Soldat, nous ne te dorloterons plus et nous te transporterons plus du tout. Tu as besoin d'être réveillé, jeune homme. Nous ne pouvons rien faire pour toi jusqu'à ce que tu ouvres ton esprit. Nous sommes tous désolés à propos de cette jambe, bien entendu. Mais d'autres hommes ont perdu des jambes dans la bataille, sauté sur des mines, et ils ont continué dans un bon esprit. Et puis, un homme peut vivre, peut être heureux et avoir une carrière prospère, même avec une seule jambe ou un seul bras. Et certains avec un seul œil en moins. Le médecin fit remarquer à quel point les gens sont capables de s'adapter et à quel point certains ont accompli des choses stupéfiantes. Dernièrement, ils ont montré à la télévision un Suisse sur une chaise roulante de course, évidemment, qui a gagné une médaille d'or. C'est pas venu tout seul. Il a voulu se lancer un défi et il n'était pas d'accord de rester dans sa tête, dans son esprit, infirme pour le restant de sa vie. Revenons à notre docteur. Ce discours ne mena pas et ne remua pas le moindrement le jeune homme. Non. Or, finalement, après plusieurs jours de tentatives pour ouvrir l'esprit de son patient, le médecin fit inconsciemment une chose assez singulière, quelque chose qui l'avait surpris lui-même. Le médecin n'était pas une personne particulièrement religieuse, mais non plus anti-croyant. Il avait rarement, sinon jamais, mentionné sa foi chrétienne au cours de sa pratique. Toutefois, ce jour-là, en désespoir de cause, le médecin cria littéralement au jeune homme « D'accord, d'accord, si tu ne veux laisser aucun de nous t'aider, si tu es assez entêté et orgueilleux pour ne pas t'aider toi-même, manquant totalement d'humilité, pardon, alors, pourquoi, je te le demande, pourquoi ne laisses-tu pas Dieu t'aider? Lève-toi et serre-toi de cette jambe, tu sais très bien comment le faire, on te l'a montré. Sur ces mots-là, assez fermes, il quitta la pièce. Or, quelques heures plus tard, on apprit que le jeune homme était debout et qu'il portait sa jambe artificielle et se promenait. Le docteur raconta que l'un des moments les plus émouvants de sa carrière médicale était survenu quelques jours plus tard. Lorsqu'il a vu ce jeune homme arpentant le terrain tout proche avec une amie chrétienne. Plus tard, lorsque le soldat a obtenu son congé de l'hôpital, il est revenu voir le médecin. Celui-ci commença à lui faire des suggestions, mais le jeune homme lui dit « Alors, allez, allez, ça va, docteur, j'ai compris. Je me souviens du médicament que vous m'avez donné ce jour-là. Et je crois qu'avec cette prescription, je peux m'en tirer assez bien. » « Quelle prescription ?» demanda le médecin. « Ne vous souvenez-vous pas de m'avoir dit ce jour-là que si je ne pouvais le faire moi-même, de laisser Dieu m'aider. Or cela m'a fait quelque chose. Je me suis senti un peu différent en dedans, et comme j'y réfléchissais, la pensée commença à m'effleurer que je pouvais peut-être le faire avec l'aide de Dieu, que peut-être je n'étais pas fini après tout. Et pendant que le médecin relatait cette histoire, il tapotait le dessus de son bureau avec son stylo d'une manière assez pensive. Je ne peux pas expliquer ce qui est arrivé à ce jeune homme, mais le processus dépasse ma compétence. Mais je suis sûr d'une chose, et je sais une chose, que d'une certaine manière spirituelle, ce jeune homme a été soulagé. Son esprit est passé d'un état de défaite intérieure à un état de pouvoir personnel. Il hésita, puis il ajouta, « Il semble y avoir une très très grande puissance dans la foi chrétienne lorsque elle est pratiquée, lorsqu'elle est mise en action, pas seulement stagnante dans l'esprit. » Et il a raison. Utilisez votre foi en Jésus-Christ et vous n'aurez plus à être une personne vaincue. La foi reconditionnera votre esprit et changera vos relations négatives en réactions positives. Elle rendra possible ce qui apparemment semblait totalement impossible. Ceci est le mécanisme qui explique les paroles de la Sainte Bible. Avec les hommes, il est des choses impossibles, mais avec Dieu, toutes choses sont et deviennent possibles. Lorsque vous vivez mentalement avec la pensée de Dieu, votre infériorité se change en pouvoir et l'impossibilité se change en possibilité. En fait, ce bref passage de 10 cours, on peut dire des mots, pas besoin qu'il soit très long, de la Sainte Bible, que j'ai cité à plusieurs reprises, ces mots peuvent révolutionner complètement votre vie. Si Dieu est avec vous, souvenez-vous, qui peut être contre vous? Voilà les mots forts et solides. Avec ces 10 mots, simplement 10 mots de pouvoir, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation humaine sans risquer la défaite. Dans l'élimination d'un complexe d'infériorité, les techniques disponibles ne doivent pas être sous-estimées à cause de leur simplicité. Le but consiste à changer la perspective de la pensée. L'infériorité est une maladie de la pensée et n'importe quel moyen, même s'il est simple, qui arrive à changer le modèle, ce modèle de pensée négative, peut se transformer en pensée positive si on y met un tout petit peu du sien. Ce n'est pas à Dieu de faire le premier pas, ce n'est pas notre boy. C'est à nous de collaborer. S'il y a un rapport entre la baisse de la religion et la prédominance de l'infériorité, alors le remède est clair. Ravivez la foi en Jésus-Christ et les sentiments d'infériorité diminueront et disparaîtront. Les principes spirituels suggérés ici ne sont pas d'ordre simplement théorique. C'est un fait prouvé, démontré cas après cas, que la foi en Jésus-Christ, proprement appliquée, peut débarrasser les gens du complexe d'infériorité. Ces 10 mots de la Sainte Bible contiennent la solution fondamentale au complexe d'infériorité. Ils représentent l'un des plus grands, sinon le plus grand, de tous les faits spirituels et psychologiques permettant de soulager la personnalité, par exemple la pensée, oui, la pensée de la présence de Dieu avec vous, en vous. Exercez-vous donc à croire que Dieu est avec vous et vous arriverez à croire que rien ne peut être contre vous. Par un processus subconscient, le sentiment d'infériorité et d'insuffisance fait graduellement place à un sentiment d'assurance et de foi. Que pensez-vous? À mon âge très avancé, ce que je fais, je ne pourrais jamais le faire sans être aidé par une identité supérieure, par la divinité divine, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Jamais je pourrais faire ce que je fais droit maintenant sans cette aide merveilleuse et divine. Voyez-vous la crainte et la foi, comme nous l'avons déjà souligné, ce sont les deux grandes puissances qui se disputent le contrôle de l'esprit humain. D'un côté la crainte, de l'autre côté la foi. Avec la crainte, je n'aurais même pas commencé ce que je fais droit maintenant. Avec la foi, non pas en moi, mais la foi en Christ, tout change. L'infériorité et l'insuffisance d'un côté, la foi et l'efficacité de l'autre, voilà donc la situation. Mais n'oubliez jamais que la foi est plus forte que la crainte. L'efficacité est plus forte que l'insuffisance. Répétez ces 10 mots rassurants, par exemple une demi-douzaine de fois chaque jour, pourquoi pas, et laissez-les s'imprégner dans votre esprit. Lorsque vous faites face à une situation critique ou difficile, exercez-vous à vous dire « Dieu est avec moi ». Je peux affronter les crises à laquelle je fais maintenant face. Et comment? Deuxièmement, notre deuxième petite étude a comme titre « Comment faire de votre vie un havre de paix ». Voyez-vous, la haute pression est une maladie prédominante aujourd'hui, j'en sais quelque chose. L'adulte qui n'a pas vu avec une certaine appréhension le médecin prendre sa pression sanguine fait partie de la minorité. Jetez un coup d'œil à la rubrique nécrologique des quotidiens et notez combien de fois la mort est causée par une pression sanguine trop élevée, l'angine de poitrine et autres afflictions d'hypertension. Plusieurs attaques, elles sont causées en partie, sinon totalement, par une tension excessive. Pour une multitude de gens tendus et nerveux, la vie est une pression constante que rien peut soulager. Le docteur Mortensen, un médecin renommé, a déclaré « Les hommes d'affaires et les professionnels n'atteignent pas leur espérance de vie normale. La tension et la pression de ces temps troublés, le rythme de la vie effréné, l'inquiétude et l'incertitude causent des ravages parmi ces hommes et ces femmes de 40 ans et plus, le burn-out. Ceux-ci meurent tous ensemble beaucoup trop tôt. Les affections cardiaques, la haute pression sanguine et les maladies artérielles, les troubles rénaux, les désordres nerveux, le cancer, les troubles gastro-intestinaux, la perte du sommeil. Voilà les pires ennemis des cadres supérieurs qui peuvent et œuvrent dans les postes clés. Et notez que peu de ces maladies sont causées par des virus. Elles sont classées dans la catégorie des maladies de dégénérescence. Nous savons très bien comment contrôler les maladies causées par les virus, la typhoïde, la scarlatine, la diphtérie, la variole et la tuberculose. Mais les maladies de dégénérescence qui surviennent à cause de l'âge, ce qui est mon cas, de l'individu et de mauvaises habitudes de vie, trop de travail, la pression continue, le stress, un repos insuffisant et un manque de relaxation sont les troubles qui ravagent tant de nos valeureuses personnes de 40 ans et plus. L'inquiétude, la crainte, la pression, le surmenage, le manque de repos, les excès dans le sexe, la nicotine et l'alcool, les mauvais régimes alimentaires, l'embonpoint, tous peuvent amener votre pression sanguine à s'élever dangereusement. 25% de tous les décès des hommes de plus de 50 ans sont dus à l'hypertension et une vie effrénée et anormale. En allant à l'église et en pratiquant la technique de vie spirituelle, une personne peut entrer en contact avec le courant d'énergie fondamental que nous appelons le pouvoir de Dieu. Le Nouveau Testament dit « En lui, en Dieu, nous vivons et évoluons et avons notre existence. » Cela signifie que Dieu ne créait pas un homme pour ensuite l'abandonner afin qu'il s'en tire du mieux qu'il peut, par lui-même uniquement. Mais il fait en sorte qu'une récréation, un renouveau constant puisse se produire en lui. En utilisant ces méthodes de contact qui sont considérées efficaces, l'énergie spirituelle renouvelle le pouvoir de l'âme, de l'esprit et du corps. L'horloge électrique est automatiquement remontée par le flot constant d'énergie présent dans l'univers. De la même manière, les gens qui maintiennent un étroit contact spirituel sont revitalisés. Ceci est la façon naturelle de vivre. L'inventeur ne croyait pas du tout nécessaire de rechercher le sommeil ou de lutter pour se réveiller, car Thomas Edison semblait être porté par quelques flots de puissance supérieure. Jamais, a dit Madame Edison, son mari avait quelque désunion de l'esprit, jamais d'obsession ou quelques entraves à son énergie. Il était comme un enfant entre les mains de Dieu, l'homme de la nature. Sans doute était-ce une raison pourquoi Dieu pouvait mettre toutes ses idées merveilleuses et phénoménaux dans son esprit. Edison vivait et évoluait et avait son existence dans la source d'intarissable énergie et il y ajustait sa personnalité. La pensée qu'un être humain puisse sensibiliser et harmoniser sa personnalité de façon à être le bénéficiaire d'une ou d'un renouvellement automatique de pouvoir et d'une telle importance qu'elle mérite d'être expérimentée. Je connais un homme d'affaires, dont l'imperturbabilité, la paix intérieure et l'équilibre sont carrément impressionnants. Pourtant, il avoue que son principal problème était la tension. Mais il a découvert une technique très simple pour vivre sans tension. Il n'a même pas besoin de faire du yoga et de la sophrologie. Il a dit « J'ai besoin d'un renouvellement au moins 2 fois par jour », c'est ce qu'il explique. Et là, je me retire dans mon bureau personnel, sans yoga, sans sophrologie, à 11h chaque matin, lorsque je commence à avoir un sentiment d'abattement. Et là, je passe quelques minutes seulement dans la méditation et la prière. J'ai bien dit, et la prière. Parce que on peut méditer dans la prière. C'est tout autre chose que certaines méditations troublantes. Si vous tournez rapidement votre esprit vers la prière pendant pendant le déroulement des activités journalières, vous obtiendrez des résultats absolument semblables. Vous n'avez pas à vous isoler et vous agenouiller, surtout si vous avez mal au dos. Pour prier, ce n'est pas un critère absolu. Même si cette posture d'humilité, pour ceux qui peuvent le faire, est souhaitable, tournez simplement vos pensées vers Dieu. En faisant cela, vous lui ouvrirez votre esprit et votre âme. Et croyez-moi, il fera tout le reste. Le troisième et dernier élément de ce processus de relaxation est la relaxation de l'âme et de l'esprit. Cette méthode est très simple. Détendez l'âme et l'esprit par l'exercice de la réflexion spirituelle. Concentrez-vous uniquement sur Dieu, sur son Fils bien-aimé Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Pensez à Dieu de la façon où il vous est le plus compréhensible. Les gens ont plusieurs conceptions différentes de Dieu. Et Dieu connaît cela, il connaît nos différences, il sait que nous ne sommes pas des robots, mais que chacun de nous est unique. Lorsque le nom de Dieu est prononcé, des esprits différents se forment instantanément des images variées. Pensez donc plutôt à Dieu en termes de bonté, de protection, de compassion et de compréhension. Pour vous détendre l'âme, dites-vous les mots, simplement des mots que vous trouvez dans les évangiles, les saintes écritures, qui exprime la paix et la protection de Dieu. Entre autres, utilisez ce verset qui est tiré du prophète Isaïe. Tu lui garderas ta paix, celui dont l'esprit est tourné vers toi. La plupart des gens souffrent de tensions parce que leur esprit est fixé non pas sur Dieu, mais au niveau beaucoup plus bas de leur ennui personnel et de leurs anxiétés. Répétez-vous calmement d'autres passages réconfortants, tels que Jésus dit: je te donne la paix, non pas la paix du monde, mais ma paix. Ne laisse pas ton cœur se troubler. Et aussi les paroles suivantes, apprenez-les, où il est dit: venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos. Les mots de nos hymnes, de nos chœurs dans les églises, sont souvent utiles, comme cette ligne de « Tu es mon berger » ou encore « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Qui aurais-je à craindre? Chers amis, Dieu vous a protégé dans le passé. Donc, vous pouvez compter sur lui aujourd'hui pour vous protéger maintenant même et également dans l'avenir. Pour terminer cette étude, sachez que comme résultat de cette expérience, j'ai rapidement senti le désir de dormir. J'étais reposé physiquement, mes muscles et mes nerfs étaient détendus, et j'étais conscient que mes inquiétudes quittaient mon esprit et que la tension s'en allait. Tout cela était accompagné d'un sentiment profond de paix. Ce processus n'est pas destiné principalement à amener le sommeil, mais c'est une formule qui peut être utilisée pendant la partie la plus occupée de la journée qui est la plus active. Ce n'est pas non plus une façon de fuir les responsabilités, pas du tout. Ne fuyons pas nos responsabilités. Cette formule augmente simplement la capacité de travail actif. La tranquillité génère la puissance. Edwin Markham a écrit cette phrase sage. Au cœur du cyclone qui déchire le ciel se trouve un lieu de calme central. Le cyclone tire sa puissance d'un centre de calme. Il en est de même pour l'homme. De la relaxation jaillit l'énergie créatrice. Une puissance est générée, elle est tirée d'un centre de calme. La pratique réduira la quantité de temps nécessaire à cet exercice, et cela jusqu'à ce que cet exercice ne requiert qu'un moment. Par une telle technique, modifiée ou élaborée, et cela pour s'adapter à votre personnalité, eh bien, vous pourrez, vous pourrez atteindre une détente totale et apprendre à vivre sans aucune tension qui vous fait de la peine et vous amoindrit. Chers amis, nous savons tous que en méditant la Sainte Parole, en priant, nous pouvons parfois, pas toujours, ce n'est pas automatique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parfois, nous pouvons recevoir dans notre cœur et esprit quelques paroles que nous pouvons transmettre avant de terminer par la prière. Et je voudrais vous donner ces quelques paroles. La peur est un mal. Bannissez la peur. La peur est un mal et l'amour parfait bannit la crainte. Dans le cœur où le Seigneur habite, il n'y a pas de place pour la peur. La peur anéantit l'espérance. Mais quand l'amour est là et la foi, la crainte s'évanouit. Alléluia. La peur est la grande malédiction qui pèse sur le monde. L'homme a peur. Il a peur de la pauvreté, peur de la solitude, peur du chômage, peur de la maladie. Les craintes de l'homme sont innombrables. Une nation en craint une autre. Regardez à la Corée du Nord et à beaucoup d'autres. On ne rencontre partout que des êtres qui ont peur. Combattez la peur comme la peste. Chassez-la de votre vie et de votre maison. Combattez-la chacun pour votre compte. Combattez-la ensemble par la prière. Ne cherchez jamais à inspirer de la crainte. C'est un mauvais allié, même quand il s'agit de la crainte du châtiment ou de la crainte du blâme. Rien de ce qu'on fait avec cet allié qui est l'ennemi, rien ne peut être fait pour Dieu. Bannissez donc tout cela. Il y a une autre façon d'agir, infiniment meilleure. Demandez-la au Seigneur Jésus-Christ et il vous l'enseignera. Sachez aimer et vivre. Travaillez pour le Seigneur, avec le Seigneur et à travers le Seigneur. Pour qu'un travail soit valable, il doit être fait avec son Esprit Saint. C'est dans le silence que besoigne son esprit, et c'est doucement et graduellement que les âmes sont conduites jusque dans son royaume. L'amour et le rire de bon aloi, ce sont des bons alliés, comme le soc qui laboure le sol et le prépare à recevoir la semence. Rappelez-vous bien cela. Sur un sol trop dur, le grain ne lèvera pas. Préparez donc le terrain. Préparez-le comme le Seigneur vous l'a dit dans les saintes Écritures. Et maintenant, chers amis, nous allons terminer par la prière. Ô Père, procure tout ce dont j'ai besoin, tandis que je te remercie pour la nouveauté de la vie aujourd'hui, et je te prie aussi pour sa poursuite. Tandis que je te remercie pour ta présence, je prie pour que je puisse la connaître de manière plus intense. Tandis que je te remercie pour la lumière de ton esprit qui me restaure jour après jour, je prie pour que je marche toujours dans et par cette lumière. Oui, tu dis que cette prière est pour toute un chacun d'entre nous, vous qui écoutez maintenant. Tandis que je te remercie pour ma guérison. Je prie pour que j'utilise ma santé, non pas égoïstement pour mes affaires, mais pour ta gloire et pour le bien des hommes. Aide-moi, ô Seigneur, à rechercher la santé et à l'attendre avec impatience, non pas pour moi-même, mais pour te servir encore mieux. Purifie-moi de tout désir d'utiliser ma santé à des fins purement égoïstes, pour ma propre satisfaction ou pour mon auto-indulgence. Aide-moi à voir que je dois rechercher la santé, la sainteté, ainsi que la plénitude, comme mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, je dois rechercher sa sainteté autant que sa plénitude. Oui, aide-moi, Seigneur, à aimer mon corps, à bien le traiter, non pas pour moi, mais pour toi, pour que Christ puisse être formé de plus en plus en moi. Sanctifie et purifie-moi pour être digne de pouvoir te servir. En ton saint nom, ainsi soit-il. Amen. Amen. Et chers amis, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ces études. Soyez bénis et que cette journée soit en quelque sorte comme un recommencement dans la bénédiction de notre Père, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, mes très chers amis. À demain matin, Diane debout. Dieu voulant, hein. C'est pas ma volonté que ce soit uniquement sa volonté, celle de notre Sauveur et Seigneur. Au revoir.